Parlons-nous.
D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains.
L'émission
de Daniel
Philippe Acquin. Alors,
du cœur au boulot, wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0, ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique.
Européen, découverte, Europe.
We copy you down, Eagle, you're looking good here.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des Enfants d'Europe 1. Merci de votre fidélité, de vos messages, de vos mails, de vos témoignages, de vos remarques toujours pertinentes. J'adore vous lire, même si je n'arrive pas à suffisamment vous répondre. Je vous promets de faire un effort. En attendant, nous allons passer cette heure ensemble. Il faudra d'ailleurs peut-être plus d'une émission, car notre invité est un homme orchestre aux multiples cordes, à son arc et à sa vie. Chanteur, rocker, animateur, auteur, acteur, un passionné tout autant que l'homme d'une passion. Une passion que pourrait incarner l'intro musicale qui va suivre. Bonjour Dick Rivers.
Bonjour Marc.
Enfant d'Europe 1, on va y revenir tout à l'heure. Enfant d'Elvis Presley, dont on vient d'entendre l'introduction du dernier concert, diffusé sur Europe 1 d'ailleurs, c'était à Hawaï.
Oui, absolument.
Ouais. Tu y étais ?
Pas à Hawaï, non. J'étais à Vegas, bien avant, oui.
Alors la bande qui est une copie, je l'ai retrouvée dans les archives de la maison, ici à Europe 1, tu sais pourquoi ?
Non, tu vas me le dire.
Parce que c'est un animateur d'Europe 1 qui l'a ramené un petit peu en douce. Et cet animateur, c'était Hubert.
Ah ben ça m'étonne pas, Hubert que je salue au passage, que j'ai de temps en temps au téléphone et qui est un type absolument extraordinaire et qui était l'animateur, un des animateurs avec un grand A d'Europe 1.
Enfant d'Elvis Presley, c'est...
Enfant, cousin.
Oui.
Cousin, parce que je pourrais pas, il aurait pas pu être mon père, mais disons que je pense qu'Elvis et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Je pense qu'Elvis est l'homme par qui tout a commencé pour nous. Parce que.
Nous, c'est qui?
Toute la génération de ceux qui ont fait du rock, quoi, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre. C'est-à-dire que le rock, qui ne s'appelait pas rock, qui s'appelait rhythm and blues, qui était une musique de black, aux États-Unis, n'aurait certainement pas, ne serait pas passé du côté des blancs et ne serait pas devenu le phénomène planétaire qu'on connaît tous si Elvis n'avait pas existé. Elvis n'a pas inventé le rock'n'roll. Elvis, c'est quelqu'un qui a simplement fait passer cette musique de black auprès des blancs. Et c'est pour ça qu'il est irremplaçable et irremplacé. Et c'est l'homme à qui on doit tout. Et John Lennon disait la même chose, Buddy Holly disait la même chose, Bruce Springsteen dit la même chose, je veux dire, sans Elvis, aucun d'entre nous n'aurait jamais existé.
Et la génération dont tu parles, c'est aussi celle qui va découvrir Europe 1 dans les premières années.
Ah ben complètement, ça c'est évident. Et d'ailleurs moi, pour parler d'Europe 1, puisque je suis un provincial, comme la plupart des chanteurs, quand je suis arrivé à Paris début 61...
Nice, c'est la province,
oui. Ah ben à cette époque-là, c'était la province.
Une des très grandes villes de France.
Aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était la province. Donc, je suis monté à Paris, comme on dit, et avec la Saint. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert la station qui était la station entre guillemets, comme on pourrait appeler aujourd'hui, branchée. C'était Europe 1. Et moi, je connaissais que Radio Monte Carlo et Nice Matin, comme dans les journaux. Donc ici, j'ai tout appris. Moi, j'étais un petit con, j'avais pas 15 ans. Je suis arrivé ici, on m'a dit Europe 1. Et c'est vrai que par rapport aux autres radios qui sévissaient à cette époque-là, qui n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, Europe 1, c'était l'endroit où il fallait être et qui, plus tard, allait passer... c'était la seule station de radio qui passait notre musique à nous, les jeunes. C'est-à-dire c'était le seul endroit où il y avait une émission qui nous était consacrée, à nous, à notre musique.
On va en reparler. Ton nom de scène, tu le dois à Elvis ?
Bien sûr. Mais enfin, oui et non. Alors là, je vais essayer de faire court. Le nom du groupe, au départ, c'était Jerry Joyce and the Joyce Man. Là, c'était à Nice, quand on était encore amateur, etc. Et quand on a passé notre audition chez Pathé Marconi, on nous a dit, voilà, comment vous allez vous appeler ? On a dit, bah, Jerry Joyce et les Joyce Man. Ils ont dit, non, ça fait trop américain, etc. Il nous faut un nom français. C'était l'époque où un groupe venait de sortir qui s'appelait Les Chaussettes Noires, donc on nous a demandé de trouver un nom français. J'ai donc j'étais très fan de Marty Wilde, le papa de Kim Wilde, qui avait un groupe qui s'appelait les Wildcats. C'est un chanteur anglais, donc j'ai traduit parce que je parlais déjà pas trop mal anglais à l'âge de 15 ans, par amour de la musique, et ça a été Les Chats Sauvages, ça a été adopté à l'unanimité. On m'a dit, et toi, comment tu vas t'appeler? J'ai dit Jerry Joyce. On m'a dit, ah non, ça fait trop machin, etc. Alors j'ai cherché très vite et j'ai réfléchi, et j'avais vu un film qui m'avait passionné quand j'avais 12 ou 13 ans, qui s'appelait Loving You, stupidement traduit en français par Amour Frénétique, je crois, où Elvis s'appelait Dick, D-E-K-E, Rivers, mais pour les Français, ça faisait Deke ou Deke Rivers, quoi. Et donc, comme j'adorais le prénom de Dick, j'ai dit, bon ben voilà, je vais m'appeler Dick Rivers. Et puis maintenant, c'est surtout mes papiers, et ça fait partie de ma vie. Et si je signe Hervé Fornéric et mon nom de baptême, je fais un faux.
Elvis Presley qui va en inspirer des émissions sur l'antenne d'Europe 1, grâce notamment à François Jouffa, auteur d'une formidable Elvis Presley Story, ou animateur de l'émission Vinyl Fraise.
Europe 1, Vinyl Fraise, François Jouffa.
On va rester dans les années 50 avec Elvis Presley.
Hi, this is Elvis Presley.
Vinyl Fraise sur Europe 1.
Il y a juste quelques semaines, un jeune homme de Memphis, Tennessee, a enregistré une chanson sur le label Sun. Et en quelques semaines, ce disque est monté en flèche dans les hit-parades. Et ça marche drôlement dans tout le pays. Il n'a que 19 ans. Il a un style bien à lui, son nom, Elvis Presley. Donnons-lui un gentil coup de main.
Elvis Presley, let's give him a nice hand.
On a chanté votre chanson par ici depuis des semaines et des semaines. Elvis, comment vas-tu ce soir?
How are you this evening?
It's fine, how are you, sir?
Pas mal, et vous, monsieur, comment allez-vous?
Nous allons écouter vos chansons.
So let us hear your songs.
Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you.
Bien, mais j'aimerais dire combien nous sommes contents d'être ici.
We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this.
On va jouer pour vous une chanson qu'on a sortie sur disque Sun, et ça commence comme ça.
Well, that's all right, mama. That's all right for you.
That's all right, mama, just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, mama, any way you do.
I guess the first thing people want to know is why I can't stand still when I'm singing.
Je pense que la première chose que les gens veulent savoir, c'est pourquoi je ne me tiens pas immobile quand je chante. Certains tapent des pieds, certains claquent des doigts et certains se balancent d'avant en arrière. Moi, je crois que je fais tout cela d'un coup.
I just sort of do them all together, I guess. Singing rhythm and blues really knocks it out.
Quand on chante du rhythm and blues, on a besoin de se défoncer. Je regarde mon public et je l'écoute, et je sais qu'il se passe quelque chose, même si aucun d'entre nous ne sait de quoi il s'agit.
I watch my audience and listen to them, and I know that we're all getting something out of our system, and none of us knows what it is.
Ce qui est important, c'est qu'on se défoule et ça ne fait de mal à personne.
The important thing is that we're getting rid of it and nobody's getting out.
You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. You was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't.
L'important, c'est qu'on se défoule, dit Elvis Presley, traduit par François Jouffa. Bon, c'est une partie de l'explication du succès de cette musique, effectivement, de ce rhythm and blues.
Mm-hmm. Tu vois, je ferais remarquer, oui. Tu vois qu'il a dit rhythm and blues, il n'a pas encore dit le mot rock'n'roll à cette époque-là. Quand il parle de That's Alright Mama, qu'il est au Louisiana Rawhide, pour lui, il chante du rhythm and blues.
D'ailleurs, au passage, That's Alright Mama, ça commence comme du Brassens, hein.
Oh non, n'exagère pas, ça commence parce qu'il commence à la guitare sèche. Mais c'est un blues, hein, That's Alright Mama. C'est un blues qui a été créé par Arthur Big Boy Crudup, qui n'est pas du tout sur ce tempo-là, et le génie de Sam Phillips, qui était le propriétaire de Sun Records, c'est d'avoir justement mis un peu de, je dirais, de country music dans cette chanson qui était au départ une chanson black. C'est au départ, c'est That's Alright Mama, c'était comme ça, quoi.
Alors à part le défoulement, le nécessaire défoulement peut-être d'une jeunesse de cette époque, il y a d'autres raisons au succès de cette musique.
Non, je pense que c'est un phénomène musical qui accompagnait un phénomène social. Un phénomène social qui est arrivé un peu plus tard en France, qui était donc en 53-54 aux États-Unis. Elvis, bon, That's Alright Mama, c'est 54. Et nous, ça a été un peu plus tard, vers la fin des années 50. Je pense que c'était la génération d'après-guerre qui, tout d'un coup, voulait prendre le pouvoir. Et au travers du cinéma, parce que beaucoup de gens l'oublient, les gens qui ont révolutionné cette génération, c'était avant tout des gens comme Brando, comme James Dean, comme Montgomery Clift, etc. Et même Elvis lui-même était passionné par ces gens-là. Son rêve au départ, c'était de faire du cinéma, c'était pas de chanter. Et cette musique qui venait du blues a accompagné ce phénomène social. C'est un phénomène musical qui est arrivé par un phénomène social. On pourrait faire exactement le même rapprochement aujourd'hui avec le rap. Ce serait pareil. Moi, quand on me demande de faire des comparaisons avec aujourd'hui, sauf que le rock'n'roll, le rhythm and blues accompagné des pays en essor, c'est-à-dire il y avait la réussite sociale, il y avait de l'argent, etc. C'est un moment de reconstruction, alors que malheureusement, le rap accompagne l'exclusion, la ghettoification.
Reste en parallèle avec un mouvement de contestation tout de même, et c'est là que...
Ah ben toujours, oui, absolument.
Tu l'as rencontré, Elvis ?
Oui, bien sûr. Ouais. Deux fois, en 66 ou 67, et puis après en 69, j'étais invité à l'International Hotel à Las Vegas pour voir j'étais dans les spectateurs des premiers concerts de Las Vegas après 9 ou 10 ans d'absence scénique, ça c'était...
Mais l'occasion absolument. De parler avec lui ?
Oui, très oui. Peu. Mais j'ai
on dit quoi
avec...
On dit quoi la personne oh, la star qu'on dit,
on est complètement idiot parce qu'on voit le l'homme par lequel on est et donc d'abord on est stupéfait par le charisme de la personne. C'était absolument extraordinaire. Il y a des gens, enfin, dont je fais partie, qui trouvent Elvis jeune, très beau. Je répète, jeune. Mais Elvis était dans la vie, il n'était pas photogénique. Il était 100 fois plus beau, en vrai, que sur une photo. Donc déjà, ça, c'est assez impressionnant. Deuxièmement, bah, je vais m'a demandé, lui, si on se souvenait de lui en Europe, parce qu'il avait fait son service militaire, en Allemagne, donc il était venu plusieurs fois en permission à Paris. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où il est remonté sur scène, il sortait quand même d'une longue période où l'Angleterre avait envahi les États-Unis. Donc je veux dire, Elvis, ça faisait longtemps qu'il n'était plus dans les hits parade. Il a fallu qu'il remonte sur scène pour que ça reparte, disons, dans les hits, dans le Billboard. Après, de quoi on a parlé ? On a parlé de... Je me rappelle que j'avais une ceinture, et la boucle lui plaisait beaucoup. Et il m'a dit, oh, you got a nice belt. Et je lui dis merci. Et ce que j'ai appris des années par la suite, que j'aurais dû en réalité enlever ma ceinture et la lui donner, parce qu'il était très généreux, et moi je ne l'ai pas été avec lui.
C'est naturel, Europe 1, c'est naturel.
Marc Tronchot.
J'aurais envie d'intituler cette émission des enfants d'Europe 1 Rock Around Europe Number 1. On est avec Dick Rivers pour évoquer les années rock, la façon dont Europe 1 a contribué à l'enthousiasme de cette génération. Elvis Presley, on en parlait à l'instant, il est jamais venu vraiment en France.
Non mais Europe a failli le faire venir.
Oui, dans quelles conditions ?
Oh, je sais plus, mais je crois que c'était Lucien Maurice à cette époque-là.
Qui était
le directeur des programmes, qui m'avait montré la lettre du colonel Parker.
Alors, qui était le colonel Parker?
C'était le manager, enfin, le monsieur Elvis Presley, quoi, pour le monde entier. Et je me rappelle, il y avait le papier à lettre, il y avait une espèce de petite, barrière. C'était très country, quoi. C'était très western, le truc. Et il avait dit à Lucien Maurice, c'est très très bien, ce que vous avez proposé comme argent. Ça, c'est très bien pour moi, mais combien vous donnez à Elvis? Et puis, après, très gentiment, il avait dit non, pour le moment, on ne prévoit pas de venir en Europe. À cette époque-là, Elvis ne prenait pas l'avion. Après, ça a changé, mais il avait très très peur de l'avion. Et puis voilà, quoi. Et puis il disait, bon, très bien, si un jour on vient, on pensera à vous. Et Hubert, dont on parlait tout à l'heure, a failli à un moment monter toute une opération. Alors par contre, avec l'orchestre d'Elvis. Mais ça, Elvis malheureusement était mort et il voulait monter avec l'orchestre de Joe Gersio, il voulait monter une sorte de spectacle dont j'aurais été un petit peu à cette époque-là le fil conducteur, et où tous les chanteurs invités auraient été accompagnés par l'orchestre de Joe Gersio. Et ça, c'était une idée formidable qui malheureusement ne s'est pas faite non plus.
Tu te souviens du jour de sa disparition ?
Elvis, oui, au mois d'août, oui.
François Ponchelet-Grand, reporter d'Europe 1 et l'envoyé spécial de la station à Memphis en août 77.
Ce qui s'est passé cette nuit sur le large boulevard qui porte le nom d'Elvis Presley ne fait que confirmer les craintes du gouverneur de l'État du Tennessee qui a mobilisé 500 gardes nationaux pour assurer l'ordre et la sécurité autour de Graceland, la villa de l'idole disparue, encore en pleine force de l'âge et toujours en pleine gloire malgré la maladie. Depuis 48 heures, des dizaines de milliers de fans ou simplement de curieux s'agglutinent littéralement autour de la propriété, occupent le boulevard Elvis Presley. La police, la radio lancent des appels aux automobilistes pour qu'ils évitent le quartier, mais rien n'y fait. Presley est mort, attire autant la foule que le roi du rock vivant. Il s'est donc installé une sorte d'atmosphère assez bizarre, tout à la fois de recueillement, mais aussi d'hystérie et pourquoi ne pas le dire de kermesse. Il fait chaud, la foule boit de la bière, des sodas, la foule pleure, la foule veut voir une dernière fois dans son cercueil le chanteur immobile dans son smoking blanc, la foule se bouscule, s'énerve et c'est le drame. Un automobiliste, sans doute un peu éméché, renverse cette nuit et tue une femme et ses deux fillettes. C'est le sort des idoles de quitter définitivement la scène dans le drame et la frénésie. On peut donc redouter ce qui va se passer cet après-midi, car toute la nuit, des avions entiers, des cars venus de tous les États-Unis et même du Canada ont débarqué des flots de fans déboussolés par la mort de l'idole. Les vedettes, on ne les a pas encore vues. On dit que les Beatles viendront rendre hommage au pape du rock. Il y aura Jackie Onassis et sa fille Caroline Kennedy, Sammy Davis Jr., Burt Lancaster, un véritable show de number one qu'aucun habitant de Memphis ne veut manquer. On ne connaît pas le détail de la cérémonie. Il y aura un office religieux célébré dans la demeure même, et puis l'inhumation aura lieu au cimetière de Forest Hill. Elvis Presley, l'enfant adoptif devenu la gloire de Memphis, reposera aux côtés de sa mère tant adorée, morte comme lui à 42 ans.
Voilà l'un des reportages d'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Memphis à l'occasion de la disparition d'Elvis Presley en août 77. On va revenir à Europe 1 précisément, on va revenir à Europe 1. Je disais à ton propos, sans avoir le moindre doute tout à l'heure, enfant d'Europe 1, c'est quelque chose de, j'allais dire, de presque naturel. M'as dit quand on s'est rencontrés, c'était presque une deuxième maison.
Ah ben nous quand on, enfin je sais pas, Europe 1 était un endroit où quand j'étais môme, où on venait mais naturellement hors promo quoi, c'est-à-dire qu'on venait dire bonjour aux programmateurs. À l'époque il y avait Babar, il y avait Jean Peignet, il y avait je sais pas, il y avait Monsieur Lebovitz, il y avait Liliane Monge, et on était copains avec les animateurs, peut-être même un peu trop d'ailleurs par rapport à aujourd'hui, les temps ont changé, mais à cette époque-là il y avait une sorte de complicité.
On venait voir s'il y avait quelque chose de nouveau.
Même pas, on venait parler de nos projets. C'était un endroit où on aimait être aimé. On aimait être aimé des gens d'Europe 1. Et on savait que c'était qu'Europe était là pour quelque part nous aider, et que c'était une station de radio qui était là pour essayer de faire connaître notre musique. Toutes les opérations scéniques qu'il y avait à cette époque-là, surtout au nord de la France, enfin, bien sûr Paris, mais c'est vrai que le rayonnement d'Europe 1 à cette époque-là, c'était les maîtres incontestés du nord de la France. Tout ce qui se passait dans le nord, que ça soit cette extraordinaire kermesse de la bière de Maubeuge, qui, bon, à cette époque-là, était le pas le Woodstock, mais je veux dire, c'était les francopholies de l'époque, quoi. Ben, c'était patronné par Europe 1. Je veux dire, quand on avait un concert où c'était Europe 1 présente, c'était pas tout bêtement une question d'échange de spots publicitaires. C'était vraiment, on savait que si c'était Europe 1 qui disait allez voir, je sais pas, un tel chanter, on savait que c'était un label de qualité. Donc, on venait souvent traîner. Et ça, je pense que c'est une habitude que nous avait donnée Daniel Philippe acquis au travers de Salut les copains.
Sylvain Foirat, c'est un nom qui t'évoque des souvenirs.
Oh, je l'ai connu. Ouais. J'étais chez lui, alors, incapable de dire dans quelle région c'était, mais il avait une maison où le podium d'Europe 1 qu'on faisait à cette époque-là, soit toute la tournée, soit sporadiquement, sans vouloir faire de jeu de mots avec mon prénom, mais je veux dire, c'est un endroit où on faisait le départ de dans cette ville, du podium d'Europe 1, et il recevait les gens. Voilà, donc j'ai connu Monsieur Foirat qui me racontait sa belle vie, de comment il avait commencé, etc.
Fondateur d'Europe.
Il y avait Simone Foirat, la jeune fille, sa fille, à qui il avait, la légende disait, à qui il avait offert Europe 1 pour lui faire plaisir parce qu'elle aimait la musique. Voilà, Simone que j'ai revue après par la suite, puisqu'elle a été notamment la compagne d'Hubert.
Un grand homme d'affaires, un homme de la terre, effectivement, de celle qui donne des truffes.
Un pauvre paysan.
Voilà, un grand touche-à-tout, familier des plus grands de son époque. Les rencontres avec Charles de Gaulle, par exemple, témoignage en 89 dans l'émission Découverte avec Jean-Pierre Elkabbach.
Moi, je peux dire que j'ai eu des contacts absolument privilégiés avec le général de Gaulle. Et avec Pompidou.
Avec De Gaulle, il vous impressionnait, le général ?
Écoutez, je vais vous dire, quand on rentrait dans son bureau, avec sa grande stature, on était impressionné. Mais dès que j'étais assis, en face de lui, toujours que tous les deux, jamais un témoin. Oh non, à partir de ce moment-là, c'était l'ami. Écoutez, un jour, après qu'on avait discuté de choses très sérieuses, très angoissantes, il m'accompagne jusqu'à la porte. En arrivant à la porte, il me tape sur l'épaule et me dit « Comment vont vos truffes ?» Alors, on était complètement désarçonnés. Parce qu'on était encore dans la discussion. Moi, j'étais encore dans la discussion de ce qu'on venait de dire.
Il vous en avait sorti une, il voulait vous faire une
truffe. Ah non, mais je lui ai dit « Mon général, hein, pas besoin d'escorte, je vous protégerai. Vous venez au mois de décembre, chez moi. » Et je vous garantis que je vous fais manger une omelette au truc comme vous n'en avez jamais mangé. Voilà. Et alors il se mettait à rire.
Les conversations de Foirat et de Gaulle. Ouais. Conversations au sommet.
Il allait fréquemment aux États-Unis, Foirat. Il
avait
des idées et des concepts d'émission. Mm-hmm. Tu es de ceux qui pensent que les États-Unis sont un modèle, le lieu de toutes les naissances ou le lieu où on se ressource.
Ça a dû être le cas, oui. C'était le cas. Je pense qu'à l'époque où Sylvain Foirat allait aux États-Unis, à l'époque où Daniel Philippe Aki et Franck Thénault ont eu cette idée merveilleuse de créer une émission pour les jeunes teenagers de l'époque, enfin pour les jeunes ados qu'on était, c'est sûr, ce sont des idées qu'ils ont pris aux États-Unis. C'était, mais plus aujourd'hui, non. Non, plus aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, les États-Unis s'européanisent. Il n'y a plus ce côté rêve inaccessible qu'il y avait à cette époque-là. D'abord, les États-Unis, c'était très loin. Ça coûtait très cher pour y aller. Beaucoup de gens y allaient en bateau. Parce que ça coûtait quand même moins cher que l'avion, qui était un moyen luxueux de traverser l'Atlantique, alors qu'aujourd'hui on peut aller à New York pour moins cher que pour Nice ou pour Toulouse, quoi. Le rêve est brisé. Il y avait un côté inaccessible, un rêve, quelque chose, un truc de réussite qui existe toujours. Hein. Le côté réussite, on n'est rien le lundi, on peut devenir quelque chose le mardi, existe toujours aux États-Unis. Mais par contre, on s'est mondialisé. L'Amérique nous a colonisés, parce que moi, si on m'avait dit, sans vouloir faire de publicité, si on m'avait dit dans les années 60 qu'il y aurait des restaurants de hamburgers dans tous les coins de rue de France et de Navarre, mais j'aurais perdu ma chemise, quoi. Je veux dire, rien que ça, c'était un truc qu'on ne trouvait qu'aux États-Unis, cette façon de manger, la façon de s'habiller, la musique qu'on écoutait. Il y avait une grosse différence entre les disques qui sortaient aux États-Unis et ceux que les maisons de disques acceptaient de distribuer en France. Donc il y avait des petits trésors cachés alors qu'aujourd'hui, je sais pas moi, Michael Jackson, Bruce Springsteen sort un album, à la même minute, à la même seconde, il sort dans le monde entier.
Alors l'émission de radio emblématique que tu évoquais sans doute à l'instant, c'est Salut les copains, bien évidemment, oui, c'est la grande idée radio, ouais. C'est la grande émission qui va évidemment suivre. Elle va naître également de la notion de playlist qui va faire son apparition dans les radios, non ? Dans les radios françaises.
Ça, c'est beaucoup plus tard, c'est avec Claude Brunet. Que je salue au passage, s'il m'entend. C'est Claude Brunet qui a créé la playlist. La playlist, il l'a, je dirais, presque créée, il me l'a expliqué en Louisiane, à Bogalusa, en 1974 ou 75. J'étais en train de faire un album qui s'appelle toujours Mississippi Rivers. Et il était venu, ça fait partie d'ailleurs de l'importance qu'on accordait aux gens qui étaient à la direction des programmes d'Europe 1. C'est-à-dire, il faisait partie des gens dont la vie était importante. Et un jour, il m'a amené dans le bar d'un motel, et puis j'avais un titre de Willie Nelson que j'adorais, qui s'appelait Blue Eyes Crying in the Rain, et Willie Nelson, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Et donc, il programmait des disques, il mettait un quarter dedans, et puis toutes les 6 ou 7 ou 8 chansons, il remettait le même titre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tout le monde chantait la chanson, et il m'a dit, tu vois, une playlist, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose qu'une station de radio partage et aime, et donc promotionne. Et après, il y a eu cette période-là, donc ça, c'est dans les années 70, où Europe a créé la première station, a créé la première playlist.
Alors, petit retour en arrière, salut les copains, le témoignage de Maurice Siegel, autre grand monsieur de la station, dans l'émission Radio Libre sur Europe 1 en 1982.
À un moment donné, Lucien revient avec une idée, en disant il faut faire une émission pour les jeunes. On cherche un titre, et je ne sais pas qui, je crois que c'est lui, pense au titre, ou Pierre Delanoë peut-être, pense au titre de Béco, puisque Béco chantait « Salut les copains voilà. ». Donc, nous sommes partis, traités avec la baronne, Madame Breton, les droits d'utiliser ce titre comme émission, mais ça faisait tellement peur que nous avons fait une demi-heure par jour de « Salut les copains ». Quand le service de publicité d'Europe numéro 1 a proposé aux annonceurs de passer dans cette émission, tout le monde a dit « Oh, c'est pas possible, d'abord ça marchera pas, c'est réservé à de pauvres mômes abrutis, etc. » Pompidou un jour m'a dit « Siegel, est-ce que vous réalisez que vous empêchez nos enfants de travailler quand ils rentrent de l'école avec « Salut les copains ?» C'était un engouement fabuleux, et là encore, permettez-moi de dire, au début, Claude François, on l'appelle la chèvre. Sylvie Vartan, on dit qu'elle ne sait pas chanter, qu'elle ne sait pas se tirer sur scène, etc. Et tous ces gens-là, pour beaucoup d'entre eux, sont quand même restés de grandes vedettes.
Effectivement, on retrouve bien là l'image de la radio un peu libertaire, un peu contestataire, qui va contre l'ordre établi.
Absolument.
Et qui choque les parents, parce que elle risque d'une certaine manière d'avoir une mauvaise influence sur leurs enfants.
Ça choque les parents et en même temps, bon, ça les rassure, parce que ils rentrent à la maison pour écouter l'émission. Puis Europe 1, quelque part, c'est aussi, pour moi, c'est l'avènement du transistor. Ça paraît con ce que je vais dire, mais c'est vrai que Salut les copains, donc Europe 1, au travers de cette émission, crée aussi cet engouement du transistor, qui est le truc que le mom met sous ses draps pour écouter, pour pas que les parents entendent qu'il écoute son émission favorite, etc. C'était l'émission pour les jeunes, donc elle nous correspondait à nous, quoi. C'est ça qui est absolument extraordinaire.
Un passage à Salut les copains, c'était un succès assuré.
C'était un tremplin assuré. C'est exactement comme aujourd'hui. Bon, sauf qu'aujourd'hui c'est multimédiatisé, mais je veux dire, comme il n'y avait que ça, il est bien évident que si on pouvait faire son trou, c'était le seul moyen de le faire grâce à Salut les copains. Après, toutes les autres stations de radio ont copié, ils ont tous eu une sorte de sous Salut les copains, une émission pour les jeunes. Mais au départ, passer à Salut les copains, surtout quand on était chouchou, alors là, on tremblait, on avait hâte que Daniel donne sa bénédiction. Si par exemple le disque sortait et que Daniel mettait le 45 tours, enfin le super 45 tours chouchou de l'émission, le titre phare, ben on était garanti que pendant une semaine on allait faire l'ouverture et la fermeture de l'émission. Donc c'était un matraquage avant l'âge, quoi.
On se retrouve dans quelques instants autour des Enfants d'Europe 1 avec Dick Rivers.
Marc Tronchot.
J'ai l'honneur de recevoir dans les Enfants d'Europe 1 aujourd'hui M. Dick Rivers pour évoquer les années 60, les années 70, le rock, tout ça. Il y a un autre élément qui jouait, qui devait faire rêver plus d'un artiste, c'est le fait qu'Europe numéro 1 et l'Olympia étaient unis comme les doigts d'une seule main.
Ah oui, mais enfin ça... Disons, là je parle pour mon opinion, enfin pour mon...
Ah bah oui, t'étais là pour ça.
Moi, je veux dire, c'était relativement secondaire. Ce qui était important, c'était le fait qu'Europe 1 soit... on pensait pas au côté commercial, passer à la radio, etc. C'était un, faire l'Olympia, et deux, en plus, quand on faisait un musicorama, c'était retransmis sur la radio que tous les Français branchés allaient écouter, quoi. Pour moi, Europe 1... C'est la FM avant la FM. C'est-à-dire, il y avait, c'était la radio jeune, la radio pour les gens qui étaient dynamiques, qui voulaient construire, etc. Donc, passer à l'Olympia, c'était déjà extraordinaire, mais en plus, être retransmis sur Europe 1, c'était doublement extraordinaire. Faut quand même pas oublier que la radio, à cette époque-là, avait une puissance qu'elle a beaucoup moins aujourd'hui à cause de la télévision. Donc, moi, j'ai passé toute ma jeunesse à écouter la radio chez moi. Quand j'étais petit, on n'avait pas de télé. Quand j'étais petit, donc on écoutait en mangeant avec mes parents, on écoutait, je sais pas, je dis n'importe quoi, la famille du raton, l'inspecteur Vitos, voilà, tous ces trucs là, ça faisait partie des rendez-vous du soir, alors que maintenant bon, c'est le journal, etc. C'est pas pareil, la radio a évolué, la radio éduquait à cette époque là et ça je regrette aujourd'hui que beaucoup de radios n'éduquent plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux FM. C'est des moulins à musique, mais on n'explique pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui est nouveau, quoi, etc. C'est une boîte à déconne, quoi.
Ça donne pas les références.
C'est même pas une question de référence, on n'éduque pas, y compris les radios dites nostalgiques. C'est-à-dire qu'on passe des trucs, on enfonce des portes ouvertes, alors qu'Europe 1 prenait des risques. Et quand, en plus, alors là, ça a été un peu plus tard, toujours dans les années 60, on avait donc l'émission culte Salut les copains, mais quand en plus, des gens comme Jean Peignet, Babar, Liliane Monge, etc., aimaient... C'était un autre obstacle. Aimer un de nos disques, on pouvait passer sur Europe 1 à d'autres heures de la journée. Et c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir un Johnny Hallyday qui suivait un Jacques Brel ou un Georges Brassens. Donc tous les gens qui aimaient Brel ou Brassens, qui écoutaient Europe et qui écoutaient presque pour ça, découvraient en même temps Hallyday en disant « Ah, mais finalement, c'est pas si mal ce qu'il fait ce garçon. » Et Lycée de Versailles, c'est-à-dire que les gens qui n'aimaient pas Brassens ou les jeunes, découvraient Brel ou Brassens grâce à Hallyday. Et c'est là où Europe était formidable, parce qu'il mélangeait justement les gens et toujours avec du goût. C'est-à-dire, il n'y avait pas de truc de mauvais goût sur Europe 1.
Bon, on va te retrouver précisément en 61 avec tes amis. C'était tout début avec Les Chats Sauvages, spectacle enregistré à l'Olympia et diffusé dans un musicorama sur Europe numéro 1.
Ce jeune homme brun, mince et lancé dans son smoking sombre, qui en entrant en scène a déclenché des clameurs d'enthousiasme, c'est Dick Rivers.
C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, je me sens solide. Depuis que tu m'aimes, comment le cacher sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit. Avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi.
C'est agréable de se réécouter où on voit tous les défauts.
Non, je peux dire que les chats n'étaient pas très bien accordés. J'entends la basse, j'entends... Mais bon, disons que... Mettons-nous à l'époque, c'était de toute façon, c'est pas parce que c'était mon groupe, puisque là je parle de quelque chose qui n'existe plus, mais musicalement c'était les meilleurs. Hein. Ça, de toute façon, pour l'époque, dans les Français, c'était les meilleurs au niveau guitare, etc., batteur. C'était, mais c'était génial ce Musicorama parce que je me rappelle qu'Europe avait dû en faire un deuxième le lendemain tellement ils avaient refusé de monde. Et il y avait dans ce Musicorama, il y avait Les Shadows, Hélène Shapiro, Billy Fury, Little Tony, enfin, nous et
c'était ça qu'elles affichent.
Ah, c'était mis monstrueux pour l'époque. Et pour la première fois en France, Chubby Checker, c'était la grande époque du lancement du Twist, qui s'était fait huer parce qu'il dansait le Twist à l'américaine qui n'avait rien à voir avec le Twist comme la façon dont les Français le faisaient. Et c'est Régine qui l'a pris par la main, qui l'a invité dans sa boîte le soir du premier Musicorama, qui lui a montré comment les Français dansaient le Twist. Et le lendemain, donc à la deuxième représentation, il a dansé le Twist façon française. Et là, il a fait un triomphe.
Les chats sauvages disent que ça va pas durer longtemps, quelques années. C'était juste pour
amorcer. Quelques années, quelques mois, tu veux dire. Le premier disque est sorti le 24 avril 61, je m'en rappelle, puisque c'était le jour de mes 15 ans. Ça, c'est un grand souvenir d'anniversaire. Et je les ai quittés en août 62 à Nantes. Non, donc ça a duré 16 mois.
Pour amorcer la pompe?
Quoi, que je les ai quittés?
Non, le fait d'avoir fait quelque chose avec un groupe pour ensuite entamer une carrière solo.
Ah non, mais moi, ma vie est véridique, comme dirait mon ami Antoine Decaune. C'est-à-dire que j'en avais ras-le-bol de la formule deux guitares, une basse, une batterie. On s'entendait plus très bien comme tous les groupes, à l'exception des Rolling Stones.
Bah, certains durent plus longtemps que quelques mois, quand même.
Ah oui? Ouais. Pas beaucoup, hein. Après, ça commence à se tirer dans les pattes. Les groupes, bon, ça dure jamais très très longtemps. Et puis voilà, puis il y avait des questions de fiancés à cette époque-là. Ils m'ont dit, oh ben si t'es pas content, casse-toi. Mais on me dit pas ça deux fois. Donc j'ai pris un train. Je me rappelle à Nantes et je suis rentré à Nice, à la maison familiale en août 62. Et là, tout le monde m'a dit, bon, c'est bien, tu t'es bien amusé. Il est peut-être temps que tu reprennes tes études ou que tu fasses quelque chose de sérieux maintenant. Après les centaines de milliers de disques qu'on avait vendus. Et là, mon directeur artistique, le copain de Franck Thénault et Daniel Philippaki, m'appelle au magasin en face, la boucherie familiale, parce qu'on n'avait pas le téléphone à la maison, et mon père n'avait pas le téléphone à la boutique, et il me dit, voilà, je t'avais promis de te faire faire un disque avec des violons, etc. Et je suis donc arrivé à Paris fin août, début septembre, j'ai sorti mon premier 45 tours solo. Et
à l'âge de
16 ans.
16 ans.
16 ans et des poussières. Et donc, je me suis retrouvé au Théâtre de l'Étoile, qui après est devenu l'Empire, en vedette, avec une double page dans le journal Salut les copains, qui venait de sortir, je crois que c'est le numéro 1, avec une première photo de Jean-Marie Perrier qui rentrait du service militaire. Il y avait marqué Dick Rivers, adieu les chats. Et comme j'ai eu la chance de trouver un groupe absolument extraordinaire, un groupe d'anglais qui rentrait d'Hambourg, qui s'appelait les Crocats, j'ai même progressé musicalement, parce que c'était 100 fois mieux que les chats musicalement. Et donc voilà, j'ai pas eu de...
Et quelques années plus tard, on te retrouve, novembre 64, à l'Olympia. Robert Marcy, l'animateur d'Europe 1, décrit en ces termes le chanteur qui apparaît sur la scène.
Ce jeune homme brun, mince et lancé dans son smoking sombre, qui en entrant en scène a déclenché des clameurs d'enthousiasme, c'est Dick Rivers.
On me demande souvent si je t'aime vraiment. Ces gens-là ne savent pas que je ne suis plus rien sans toi. Si un autre avant moi t'a tenu dans ses bras, moi je veux l'oublier, effacer le passé. On dit que je suis fou, toi, je l'avoue. Attends et tu verras qu'un jour tu m'aimeras. Je ne suis plus sans toi.
Je ne suis plus rien sans toi. Dick Rivers.
It's only make believe.
Ça marche toujours. Je veux dire, les filles en régie, elles sont aux anges. Comment tu fais?
Je sais pas. Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 avec un des leurs, Dick Rivers, pour évoquer, on en est aux années 60, on était en 64 quand on s'est quitté il y a quelques instants, on était à l'Olympia où Dick Rivers était en première partie. Dick, tu te souviens, tu étais en première partie de qui?
Beach Boys.
Bravo.
Serving USA.
Les garçons de la plage, autrement dit les Beach Boys, ils ont eu autant de succès aux États-Unis qu'en France, Eddie?
Non, ils avaient surtout du succès aux États-Unis. Oui. Moi, honnêtement, maintenant avec le recul, je trouve ça absolument génial et gigantesque, mais à part Good Vibrations, qui pour moi est un titre mythique, à cette époque-là, j'étais pas très très fan de tous ces groupes, et plus particulièrement des Beach Boys. Je le dis avec honte, et je m'en excuse auprès...
Parce qu'on n'est pas dans le rock pur et dur.
Voilà, j'ai trouvé ça un peu le côté les chemises à fleurs, etc. C'était pas ça, moi. Pourtant, bon, c'était des Américains, donc c'était rock. Les Anglais, ça me... tout ce qui était Beatles, etc., à part les Rolling Stones, je veux dire, ça me défrisait un peu parce que je trouvais que c'était un peu marketing déjà à cette époque-là. Je trouvais que c'était sous-produit, quoi. Pour moi, le rock, c'était américain.
T'as un petit côté intégriste du rock ou...
À cette époque-là,
oui.
Total.
Plus maintenant?
Ah non, oh là là, plus du tout.
Quels sentiments sont ceux du jeune homme que tu es en 1964 là, quand on bavardait l'autre jour, tu as employé une formule que j'aimerais t'entendre développer. Je suis, m'as-tu dit, passé du vélo à la Cadillac.
Absolument. Non mais c'est réel. C'est pas.
J'ai pas eu d'adolescence. Cadillac.
J'ai pas eu d'adolescence. C'est-à-dire que j'ai commencé très jeune. Donc mes parents, quand j'étais adolescent, ne voulaient pas me payer de mobylette comme tous mes copains. Même pas un vélo Solex, donc alors j'avais des copains qui me trimballaient en mobylette, en scooter, même ceux qui avaient un certain âge avaient déjà des Vespa, des Lambretta, etc. Moi c'était non, donc j'avais un vélo,
que j'employais de temps en temps dans les rues de Nice ou à la campagne. Et puis après, boum, j'ai été catapulté en ce qu'on appellerait aujourd'hui une star, hein, en 2 mois, 3 mois. Donc je me suis retrouvé en juin 61 au Palais des Sports de Paris, et comme il nous fallait une voiture pour nous trimballer à cette époque-là, il était tout à fait normal, il y avait énormément de voitures américaines.
Mais
t'avais
pas le permis encore?
Ah non, non. C'est pas moi qui conduisais, c'était un des mais ce que je veux dire, on l'avait acheté, il y avait un pot commun. Et donc nos voitures, c'était des voitures américaines. Donc je suis passé de la bicyclette à la Cadillac. Je suis passé au niveau des boissons de surprise party quand j'avais 13 ans, on buvait tout ce qui était alcoolisé, c'était de la bière en bouteille familiale, tout d'un coup au champagne, au whisky dont je ne connaissais même pas le nom. C'est-à-dire, je voyais les westerns à la télévision, je voyais des mecs boire du whisky. Et le jour où j'ai goûté mon premier whisky, j'ai trouvé ça lamentable. Dégueulasse, je trouvais que ça avait un goût de punaise. Enfin bon, ça c'est une autre histoire.
Et vous trimbaliez absolument tous les instruments dans la
absolument.
Cadillac?
Ah ben oui, c'est une grosse, grosse Cadillac. J'ai un souvenir de cette Cadillac, place vert bouteille, vert foncé, énorme, qu'on avait acheté d'occasion. On n'avait pas les moyens d'en acheter une neuve. Mais c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une mini limousine, quoi, avec carrément la vitre de séparation entre le chauffeur et l'arrière, donc c'était assez grand, ce qui nous permettait de mettre à la place des pieds les amplis qui étaient pas très gros, qui étaient des Vox AC30, de mettre dans le coffre nos bagages, on en avait pas beaucoup,
et
sur la batterie, je me rappelle plus très bien, une partie dans le coffre, une partie sur la galerie sur le toit, et je me rappelle un jour avoir on a tapé dans un taxi, c'était, je crois, une 403, c'était costaud à l'époque, qui nous est rentré dans le cul, on est rentré dans le cul du taxi, place de la Concorde, et je me rappelle que le taxi s'arrachait les cheveux parce qu'il avait plus de pare-choc, et nous, on n'avait même pas une égratignure sur le pare-choc.
Ça fait penser à un film célèbre, ça, oui.
Non, exactement. Non, mais c'est pas des blagues. Et Maurice Thézé, qui était le manager du regretté Sacha Distel, avait aussi une voiture américaine pour faire la route. Il n'y avait pas beaucoup d'autoroutes à cette époque-là. Hein. Et il me disait toujours, moi, si j'achète des voitures américaines, c'est parce que si malheureusement je dois prendre un platane, c'est le platane qui va plier. Ce qui n'est plus du tout le cas des voitures américaines aujourd'hui, qui sont comme toutes les voitures récentes, en plastique, machin, etc.
Tout ce qui
s'enfoncent.
Tout ce qui est beau à tes yeux est américain? Non.
Ça a été le cas.
Ça a été le cas.
Ben ça dépend quoi. Je veux dire, moi, je peux pas mettre un jean qui n'est pas américain. Ça, c'est impossible. Je veux dire, un blue jean, il faut qu'il soit made in USA. Je mets plus de, sans citer de marques, il y a plein de marques que je ne mets plus, tout simplement parce que maintenant, ils sont faits soit au Mexique, soit en Thaïlande, même sous un label américain.
Amateur de western?
Je l'ai été. Ouais. Je le suis, moi. Maintenant, je suis amateur.
Mais les grands, quoi.
Comment?
Les grands westerns.
Oui, mais je pense que c'est une question d'époque, parce qu'il m'arrive, aujourd'hui d'en revoir, et à part quelques rares exceptions, pour citer Rio Bravo, Quai Corral, etc., qui sont restés des monuments, c'est vrai que certains que j'avais adorés ont gravement vieilli, quoi.
Allez, petit cadeau de la maison, quand Jean-Claude Brialy évoque John Wayne sur l'antenne d'Europe 1, c'est dans Histoire de Star.
Devenu le symbole du courage et de la force d'un pays que le monde regarde comme un géant, John Wayne se sent victime de sa légende. Géant, c'est le mot qui marque sa carrière. Son dernier film s'appelle « Le dernier des géants » et le premier a pour titre « La piste des géants ». C'était en 1930. Tout avait commencé par une folie de William Fox. Il voulait faire le plus grand western parlant. Le cinéma parlant venait de surgir comme une révolution. Raoul Walsh cherchait des acteurs. Ceux qui tournaient habituellement dans les westerns muets ne savaient pas dire un texte, et ceux qui jouaient au théâtre étaient incapables de monter à cheval. Alors Walsh s'intéressait aux débutants, aux inconnus. Voilà comment il avait découvert John Wayne, l'accessoiriste et le petit cascadeur de son ami John Ford. Étonné par son aisance, son naturel, Walsh en avait même fait la vedette du film, à la place de Gary Cooper, qui était indisponible car employé par un autre studio. John Wayne commençait sa carrière comme vedette de La Piste des Géants, le plus grand western parlant, sorti des studios de William Fox, l'homme le plus puissant d'Hollywood.
Ça a été pour lui une expérience fort intéressante, mais ça ne lui a rien apporté.
Jean-Louis Rieu-Pérou.
Et puis un jour, ce qui est assez drôle, c'est de voir Wayne dans un western chantant. Vous savez qu'il a été, chanteur, et il a été le premier d'ailleurs. Le cowboy qui gratte une guitare en selle sur fond de lune et d'étoiles et qui susurre une romance à la guimauve, etc. Et personnage qui a eu du succès par la suite, repris par d'autres qui eux savaient chanter parce que Wayne ne savait pas chanter, ne savait pas gratter la guitare, il était forcément doublé.
John Wayne veut rester jusqu'au bout. Le héros de la bannière étoilée.
John Wayne, c'était vraiment l'archétype, je crois, de l'Américain, profondément conscient de la puissance de son pays, de ce que représente son pays.
Jean-Michel Charlier, écrivain.
Ce qui n'est pas peu dire, hein, un patriote américain. Vous savez, je crois qu'on connaît relativement mal l'Amérique ici, en ce sens qu'on n'imagine pas ce que peut être le patriotisme américain. John Wayne s'était petit à petit convaincu qu'il incarnait toutes les vertus viriles des pionniers américains.
Et quand un homme de l'Ouest sent qu'il arrive au terme de son voyage, qu'il va mourir, il ne s'effondre pas en de vaines lamentations. Comme John Wayne, ce samedi 1er avril 1978, il traverse la rue la tête droite, le regard clair, sûr de livrer l'un de ses derniers combats. La maladie ne l'a pas encore vaincu, il ne lui laissera pas prendre son dernier souffle, pas plus qu'il a laissé dans ses films les Indiens lui arracher son scalp.
Voilà, c'était pour réentendre également Jean-Claude Brialy, l'une des grandes voix de cette maison, dont j'espère bien qu'il acceptera de venir un de ces jours dans ce studio.
Très gentil,
on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dick, tu peux revenir pour une deuxième, oui.
Oh, bah, bien possible. Sûr.
Il y aura beaucoup de choses que j'ai envie de te faire écouter. Ça marche. Bon, rendez-vous est pris. Rock Around Europe 1, deuxième partie dimanche prochain. En attendant, bonne fin de journée, bonne semaine et bonne radio.
Au revoir.
C'était Marc Tronchot.